11h02, bien précisément dans le Point de Max à Boulevard, 25 degrés à Québec, 34 au ressenti, et on pourrait ressentir jusqu'à 40 au courant de la journée, avec un 60% de possibilité d'averse et des possibilités d'orage également. Demain vendredi, c'est 31 degrés au thermomètre, évidemment qu'avec l'humidex, on va aller jouer aux alentours des 40 aussi, avec 30% de possibilité d'averse, puis après ça, on part sur une méchante belle run. Samedi, dimanche, lundi, c'est du gros soleil avec respectivement 25, 27, 28. Mardi, mercredi, on a encore du soleil, quelques nuages, mais avec 29, 28. Fait qu'on va espérer que cette séquence-là puisse se poursuivre par la suite parce que dès le 9, ben, c'est le début du Festival d'été de Québec. On s'entend qu'on est habitué d'avoir une coupe de chaud à pluie. Comme je disais en ouverture, on est habitué malheureusement à au moins une soirée où on n'aura pas de chaud à cause d'orage. Mais qui sait, peut-être que cette année, on va être chanceux, puis on n'aura pas d'annulation, puis on va avoir que des shows sans pluie à suivre. À la circulation, Mathias, il y a au moins là, une... Ben non, il y a même une couple de problématiques, là, je regarde la carte.
Ben c'est surtout... En fait, tout ce que je vais vous nommer, pas mal, c'est en raison des travaux dans les différents secteurs, à commencer par la 20 en direction ouest. C'est entre Taniata et Chemin des Îles que c'est au rouge. En direction est, il y a un petit quelque chose au niveau de Taniata. Pour accéder à l'île d'Orléans, c'est très difficile présentement en direction sud, donc de Québec vers l'île d'Orléans. Beaucoup d'attentes dans le secteur. Henri IV en direction nord et sud dans le secteur autour de Chemin des Quatre Bourgeois, Chemin Sainte-Foy, ralentissement également. Capitale direction ouest entre, je dirais, c'est entre Laurentienne, ça remonte jusqu'à Henri Bourassa en ce moment, et Laurentienne direction sud, un peu d'attente pour accéder à Capitale.
Merci beaucoup Mathias, très content de la recevoir en studio, et c'est des retrouvailles pour elle avec ce dit studio. Elisa Cloutier qui est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Québec, salut!
Allô?
Ben oui. C'est un studio que tu connais?
Très bien, en fait, que je connais même un peu trop bien. Puis là, j'ai l'impression de paraître super vieille quand je dis... c'est quand j'étais assise ici. Mais honnêtement, je suis vraiment pas bonne avec les dates. Mais je pense que... Moi, c'était à l'époque de C'est quoi? Donc, c'était avant l'ancienne appellation de cette antenne ici. J'ai été à l'antenne de 2007, je dirais, à 2013, peut-être, quelque chose comme ça. Là.
Est-ce qu'on va la vieillir trop si on dit qu'en 2007, j'avais 6 ans, puis toi, t'avais quoi, 4 ans?
4 ans,
ouais. C'est pas vrai, c'est l'âge de ma fille! Mais oui, je suis une vétérante, on va dire ça.
Mais on a commencé exactement à la même place dans le studio, dans cette petite chaise-là de journaliste.
Exact.
Moi, je commençais là il y a exactement 5 ans.
C'est fou, hein?
Ouais.
Ah non, sérieux, les gars, vous me rajeunissez pas aujourd'hui. Là, je m'attendais pas à ça. Dans ma tête, moi, j'ai encore 22 ans.
C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est important.
Mais non.
Pourquoi on se parle aujourd'hui? C'est pas juste pour le plaisir de te ramener dans le
studio
de Boulevard. Là. Ça aurait été bien le fun, mais c'est pas juste ça. C'est que tu as travaillé sur un dossier avec le bureau d'enquête du Journal de Québec qui s'est retrouvé en une là, ce matin du journal par rapport à l'Armée de Marie, qui est un groupe religieux dont on avait parlé dans un tout autre contexte il y a quelques mois de ça, avec des genres de peut-être conflits d'intérêts au niveau politique. Là, on est complètement ailleurs aujourd'hui, mais d'abord, pour mettre la table, Elisa, l'Armée de Marie, je veux dire, c'est un groupe religieux, mais c'est quoi, c'est où, ça existe depuis bien longtemps?
Oui, ça existe. En fait, ça a été fondé officiellement en 1971 par une Québécoise. Là, c'est un groupe religieux québécois, par une dame qui s'appelle Marie-Paul Giguère, qui, elle, bon, selon les écrits là, de ce groupe religieux-là, c'est une femme qui avait des visions, recevait des messages mystiques là, de la Vierge Marie. D'autres disaient même que c'était l'incarnation même de la Vierge Marie ici.
Rien
ni plus
de
ni moins.
Moins.
Voilà. Et c'est un groupe religieux, donc, qui a connu des années assez, assez importantes au cours des années 80. On parlait, bon, qu'ils étaient près de 20 000 fidèles ici au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Il y en a eu aux Pays-Bas, en Belgique. Aujourd'hui, c'est un peu plus restreint, mais ils sont toujours installés à Lac-et-Chemin. Ils ont un immense terrain là-bas où ils ont leur maison-mère qui s'appelle Spiri Maria. Quelques centaines de fidèles y vont chaque semaine actuellement. Il y y a aussi d'autres quelques centaines de fidèles un peu partout au Québec. Il y en a aux États-Unis, il y en a également en France. Donc, c'est sûr que ça a diminué. On parle de quelques milliers de fidèles là, si on regroupe tout le monde à travers le Québec et le monde actuellement.
Et là, ton dossier, Lisa, aujourd'hui, tourne autour d'un scandale. Le groupe religieux qui se retrouve dans l'embarras. Il y a des allégations d'abus sexuels sur des garçons. Mais ce qui est très particulier, c'est que le scandale part d'un papier, d'une lettre
d'eux-mêmes
qui a été publiée exact par eux-mêmes dans le journal Le Royaume, qui n'est pas un journal que monsieur, madame, tout le monde va lire. Ce n'est pas le journal de Québec. Là. C'est un journal qui est destiné aux fidèles.
Oui, c'est une publication qui est distribuée, la version papier, dans leur maison mère.
Le scandale part d'eux-mêmes.
Exact. Finalement, après avoir pu rencontrer des représentants là, de ce groupe religieux-là hier, j'ai pu comprendre un petit peu plus pourquoi on a décidé de révéler ça. C'est ça, au grand jour, là, dans les dernières semaines, en 2026. Bon, si je résume, c'est qu'il y a quelques mois, justement, après la publication de nos reportages concernant, ça concernait les élections municipales, là, il y avait quelques membres de l'armée de Marie qui voulaient se présenter en politique. Ils n'ont pas été élus. Et ça a créé beaucoup d'attention médiatique sur ce groupe-là. Il y a certains éléments d'information qui voulaient rectifier ou en tout cas corriger le tir. Et ils ont publié un message dans justement ce même journal-là disant j'ai pas les mots exacts, là, mais ça se terminait en disant « Nous, à l'armée de Marie, on n'a aucun soupçon sur nous concernant les abus sexuels. On est hors de ça. On a toujours été...
Et ça, c'était il y a quelques mois.
C'était il y a quelques mois. Et de ce que j'ai pu apprendre, c'est que ça a choqué ça, certains proches de victimes qui ont correspondu avec le roi, parce qu'il faut dire qu'il y a un roi d'église dans ce groupe religieux.
Rien de moins, encore une fois.
Voilà. Et il y a une ancienne membre qui a écrit à ce roi pour lui dire ça ne fonctionne pas. Là, pourquoi vous êtes allé écrire ça? C'est pas vrai. Il y a eu des victimes. Vous le cachez, blablabla. Et là, je comprends que ça a fait brasser les choses et ils ont voulu prendre les devants par preuve de transparence et ils ont révélé ces abus sexuels survenus sur, disons-le, des dizaines de garçons, adolescents et jeunes adultes. Ce sont des gestes à caractère sexuel qui... Et là, je cite les représentants à qui j'ai pu m'entretenir hier et la lettre de 6 pages aussi qui a été publiée dans ce journal. Donc, des faits qui sont survenus entre 1975 et 96. On parle de dizaines de victimes, tous des garçons. Et à ce jour, il n'y a pas eu de plainte là, qui a été déposée.
C'est ça. Je suis curieux de t'entendre sur la rencontre parce que la lettre, on retrouve les informations là-dedans. Ça, c'est comme on le disait, c'est sorti il y a quelques semaines.
Ouais.
Là, ces gens-là acceptent de rencontrer des journalistes du journal, toi.
Ouais.
À quoi ça ressemble, cette rencontre-là? Est-ce qu'on sent qu'on est un peu sur la défensive? Est-ce qu'on sent qu'on veut vraiment faire preuve de transparence? Et comment tu l'as senti?
Je pense que d'abord et avant tout, l'objectif pour eux, c'était vraiment de faire preuve de transparence. Mais, tu sais, il y a raison quand même de se... On peut se demander pourquoi. Parce que hier, j'ai appris que plusieurs représentants, dirigeants de ce groupe religieux-là ont appris en 1990. Parce que dans la lettre, là, moi, j'y suis allée d'extrait dans mon reportage, mais dans la lettre, c'est assez explicite, puis on nomme même 2 pères là, qui ont été visés par ça. Là. Moi, j'ai,
et eux sont décédés, c'est ça?
Ils sont décédés aujourd'hui. On a fait le choix de ne pas les nommer là, pour les raisons que vous connaissez.
Mais c'est ça, mais dans la publication, on les nomme. Particulier.
C'est extrêmement particulier. Là. C'est surprenant, en fait. Parce que, tu sais, je veux dire... et on précise que toutes les victimes, à ce jour, sont encore vivantes. Et on peut présumer aussi que ces gens-là, ces pères, parce que c'était 2 pères. Ces pères visés ont encore de la famille, là, tu sais, quelque part, à la Quai de Chemin et ailleurs au Québec. Mais cette rencontre-là, bref, il y a eu des moments quand même assez surprenants, je pourrais dire, dans la rencontre, surtout lorsque je leur ai demandé pourquoi ne pas avoir inciter ces victimes-là à aller porter plainte ou à témoigner, à se libérer de ça. Bon, là, j'essaie de reprendre les mots le plus fidèlement possible, mais on m'a dit que à l'armée de Marie, on n'est pas tant dans l'accusation, la répréhension, on est plus dans l'amour, l'acceptation, l'aide, la miséricorde et tout ça. Donc, il y a même un prêtre de l'armée de Marie hier qui m'a dit « Depuis la publication de la lettre, j'ai pu m'entretenir avec trois victimes qui ont dit là, qu'ils avaient été soulagés par cette lettre-là. »
Là, tout est beau.
Ben, c'était un peu là, ce que laissait entendre l'entrevue. Là. J'étais un peu surprise par moment. Puis on m'a dit qu'à l'époque, donc personne n'avait porté plainte pour différentes raisons. La première, c'est qu'on ne voulait pas déplaire ou déranger la famille, déplaire à l'œuvre, parce que c'est aussi appelé l'œuvre. Et on m'a expliqué également qu'avant, là, il y a quelques années, c'était un autre chef qui était en place. Là, c'était un pape, là, je ne sais trop, un roi, un chef. Et lui, il tenait vraiment à ce que ça reste lettre morte. Là. Il le disait ouvertement, il ne faut pas que ça sorte et tout ça. Donc, c'était les raisons pour lesquelles, semble-t-il, les victimes n'ont pas porté plainte à ce jour.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y avait peut-être là, dans la publication de cette lettre-là, justement, une stratégie de venir soulager les victimes, de dire comme ça, il y a moins de risques qu'éventuellement, ils pourraient porter plainte, puis en même temps, on se donne un peu une image comme quoi, ça, c'est du passé, on est prêt à avouer nos torts, mais on a changé maintenant?
Assurément qu'il y a eu un désir de contrôler le message, là, parce que, tu sais, on peut comprendre que cette lettre-là, là, de l'ancienne membre, là, qui semblait choquée, ben, tu sais, il y avait quand même un danger à ce que cette personne-là décide d'aller, par exemple, dans les médias ou que ça sorte pas de leur façon. Je pense que c'est ça. Pour contrôler le message, est-ce qu'ils sont allés, de façon explicite en nommant les... ça leur appartient. Mais oui, je pense que c'était pour un peu démontrer qu'ils veulent maintenant partir, un nouveau départ et tout ça. Mais c'est ça. C'est difficile pour moi de vraiment savoir quelles étaient leurs intentions avec ça. Là. C'est ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils sont sur un nouveau départ et qu'ils sont transparents.
Est-ce que tu as rencontré l'individu derrière la lettre? Parce que, de ce qu'on comprend, c'est vraiment une personne, un très haut placé.
Le roi d'église.
Le fameux roi d'église, rien de moins, encore une fois. Est-ce que tu as rencontré cette personne-là ou non?
J'ai fait la demande, évidemment, mais hier, lorsque j'ai pu rencontrer les trois représentants, ils n'étaient pas là. Et on m'a dit...
La reine, le fou du roi?
Un prêtre qui est un... Là, j'ai un genre de conseiller supérieur avec
d'autres
personnes
termes, genre,
qui sont responsables du bureau d'information de l'armée de Marie. Et en fait, ce qu'ils ont mentionné, c'est que le roi d'église, qui s'appelle Marc Boscar, n'était pas disposé à me rencontrer puisqu'il n'était pas à l'aise là, vraiment dans ce genre d'entrevue en personne.
Il y a un segment du texte que j'ai lu, puis là, j'ai comme fait... OK, on est quand même dans cette mentalité-là. Ben, puis je dis un segment, une couple de segments, là, mais un en particulier, où on dit que on n'aurait pas nécessairement besoin d'aller vers la judiciarisation parce que le prêtre a été repentant. Fait qu'il se sentait mal, il regrettait de l'avoir fait. Fait que dans ce temps-là, on n'a pas besoin de judiciariser. Ça amène juste du trouble plus qu'autre chose. Qui a mentionné ça, déjà?
C'est le prêtre Yvan Laprise, là, hier. Dans le fond, évidemment, cette phrase m'a aussi surprise. C'est que, bon, on parlait des deux pères visés. Et dans le cas d'un des deux pères, semble-t-il que ce père-là était repentant, qu'il admettait ses torts, qu'il a tenté également une thérapie. Mais de toute évidence, tout ça n'a rien donné parce qu'il a continué de faire des victimes. Et il m'a dit, mais j'essaie de reprendre les mots exacts, là, à quoi bon, est-ce que la justice amène vraiment la correction? Tu sais, nous, on est plus dans un mode d'encadrement, d'aide, parce qu'on apprend, ce qu'on apprend, c'est que ce père-là, qui était supposément repentant, a été, lorsque ça s'est su au sein de l'armée de Marie, il a été envoyé en Italie dans une ancienne communauté de l'armée de Marie, où il œuvrait là, auprès de religieuses. Donc, c'est la solution qu'on a choisie à l'époque pour, je dirais, pour l'éloigner d'éventuelles autres victimes.
Élisa Cloutier, ton texte, en fait, c'est divisé en deux textes, mm-hmm. mais appelons ça ton dossier, est sorti depuis quelques heures. Est-ce que tu as déjà eu certaines réactions? Est-ce que tu t'attends à avoir des réactions puis qu'on ait des suivis?
Oui, je pense que... Oui, j'ai déjà reçu des courriels ce matin. Bon, il y a des anciens fidèles qui souhaitent me parler. Je m'étais déjà entretenue avec d'autres anciens fidèles. Je pense que ça fait beaucoup jaser, surtout pour les gens qui sont touchés de près ou de loin par ce groupe religieux-là. Un suivi, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que certaines victimes vont un jour décider d'aller porter plainte? Est-ce qu'il y aura suivi là-dedans? Je ne sais pas.
Parce que comme on mentionnait, les présumés agresseurs sont décédés.
Oui.
Là, s'il y a des plaintes, c'est peut-être plus au niveau de gens qui ont participé à cacher les informations. Parce que là, on le comprend très bien. Là, il y a des gens qui étaient au courant. Là.
Oui.
On l'avoue oui. même.
Tout à fait.
Donc, ça va en cours. Je ne suis pas un professionnel, mais il me semble qu'il y a des affaires qui vont être relativement faciles à prouver de par cette lettre-là. Là, on s'incrimine ouais. nous-mêmes.
Bien, parfois, on peut voir aussi des poursuites judiciaires en lien avec la succession d'une personne décédée. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais également, si, par exemple, une victime a fait mention de gestes à caractère sexuel dont elle a été victime à quelqu'un qui l'a... j'ai pas de témoignage en ce sens-là, mais qui l'a convaincu de ne pas aller porter plainte, bien là, il y a peut-être aussi matière.
Élisa Cloutier, journaliste, dis-je mal, au bureau d'enquête du Journal de Québec. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
D'être repassé.
Oui,
au
plaisir.
Repasse-nous voir quand tu veux.
Parfait.
Puis si tu veux, là, tu pourras prendre cette chaise-là la prochaine fois pour te ressentir dans ton okay. jeune temps. T'es encore
bon.
Jeune de cœur, là, mais ouais. tu iras t'asseoir dessus
cœur,
la prochaine
t'es
fois.
T'es fin, merci.
Merci beaucoup, Élisa. Au retour de la pause, les nouvelles avec Mathias Turcotte, puis notamment, là, je viens de voir qu'on se remet à parler d'arbres là, à la ville de Québec qui sont plantés, puis que ça va rassurer des gens qui ont bien peur pour les arbres sur le tracé du projet de tramway. Là, 22 000 arbres plantés. Fait que, y a des gens qui vont passer une très belle journée grâce à ça. On va parler de hockey aussi. Là, hier, très grosse journée avec le 1er juillet, ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. Nouveau contrat pour Ivan Demidov. Pascal CV va venir faire son tour en fin d'émission. Mais avant tout ça, Mathias, circulation.
Bien, je vous avais dit que l'accès au pont de l'île d'Orléans à partir de Québec était très difficile actuellement. Puis j'ai reçu un texto comme quoi ça. Puis j'ai envie de vous dire. C'est à l'arrêt au milieu du pont. Là. Maintenant, c'est presque au début du pont. La raison de ça, c'est qu'à la sortie du pont, en raison des travaux là, pour la construction du nouveau pont, ce serait circulation à alternance d'un côté puis de l'autre en ce moment. Donc, c'est difficile pour accéder à l'île d'Orléans. Également, juste vous signaler, comme à l'habitude, l'avant direction ouest, c'est très difficile, là, mais présentement, c'est entre Taniata et ça remonte jusqu'à Président Kennedy.
Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez jamais. 418-971-1021 par texto. 11h19 dans le Point de Max. On revient. Le Point de Max.